Chapitre 12. Le clocher de Chamonix sonnait 9 heures dans un soir frissonnant de bise et de pluie froide. Toutes les rues noires, les maisons éteintes, sauf de place en place la façade et les cours des hôtels où le gaz veillait, faisant les alentours encore plus sombres dans le vague reflet de la neige des montagnes, d'un blanc de planète sur la nuit du ciel. À l'hôtel Baltais, un des meilleurs et des plus fréquentés du village alpin, les nombreux voyageurs et pensionnaires, ayant disparu peu à peu, harassés des excursions du jour, il ne restait au grand salon qu'un pasteur anglais, jouant aux dames silencieusement avec son épouse, tandis que ses innombrables demoiselles en tabliers écrus à bavette s'activaient à copier des convocations au prochain service évangélique et qu'assis devant la cheminée où brûlait un bon feu de bûche, un jeune Suédois creusé, décoloré, regardait la flamme d'un air morne en buvant des grogs au kirsch et à l'eau de sels. De temps en temps, un touriste attardé traversait le salon, guêtre trempé, caoutchouc ruisselant, allait un grand baromètre pendu sur la muraille, le tapotait, interrogeait le mercure pour le temps du lendemain, et s'allait coucher consterné. Pas un mot, pas d'autre manifestation de vie que le pétillement du feu, le grésil aux vitres, et le roulement colère de larves sous les arches de son pont de bois à quelques mètres de l'hôtel. Tout à coup, le salon s'ouvrit. Un portier galonné d'argent entra, chargé de valises de couverture, avec 4 alpinistes grelottants, saisis par le subit passage de la nuit et du froid à la chaude lumière. « Bon Dieu, quel temps ! À manger, zou ! Basinalelli, qué ! » Ils parlaient tous ensemble du fond de leur cache-nez, passe-montagne, casquettes à l'oreille, et l'on ne savait auquel entendre, quand un petit gros qu'ils appelaient le président leur imposa silence en criant plus fort qu'eux. « D'abord, le livre des étrangers, » commanda-t-il. Et le feuilletant d'une main gourde, il lisait à haute voix les noms des voyageurs qui depuis 8 jours avaient traversé l'hôtel. « Docteur Schwanthaler et madame, encore ! Astier et U de l'Académie française. » Il en déchiffra 2 ou 3 pages, pâlissant quand il croyait voir un nom ressemblant à celui qu'il recherchait. Puis à la fin, le livre jeté sur la table avec un rire de triomphe, le petit homme fit une gambade gamine extraordinaire pour son corps replet. « Il n'y est pas arrivé, il n'est pas venu. C'est bien ici pas moins qu'il devait descendre. Enfoncé, Costecalde, la gadille et la gadou. Allez vite à la soupe, mes enfants. » Et le bon Tartarin, ayant salué les dames, marcha vers la salle à manger, suivi de la délégation affamée et tumultueuse. Et oui, la délégation, tous, bravida lui-même. Est-ce que c'était possible, allons ? Qu'aurait-on dit là-bas en les voyant revenir sans Tartarin ? Chacun d'eux le sentait bien, et au moment de se séparer en gare de Genève, le buffet fut témoin d'une scène pathétique. Pleurs, embrassades, adieux déchirants à la bannière, à l'issue desquels, adieu, tout le monde s'empilait dans le landau que le PCA venait de fréter pour Chamonix. Superbe route qu'ils firent, les yeux fermés, pelotonnés dans leur couverture, remplissant la voiture de ronflements sonores sans se préoccuper du merveilleux paysage qui, depuis sa lanche, déroulait sous la pluie. Gouffres, forêts, cascades écumantes et, selon les mouvements de la vallée, tour à tour, visible ou fuyante, la cime du Mont Blanc au-dessus des nuées. Fatigués de ce genre de beauté naturelle, nos Tarasconnais ne songeaient qu'à réparer la mauvaise nuit passée sous les verrous de Chaillon. Et maintenant encore, au bout de la longue salle à manger déserte de l'hôtel Baltais, pendant qu'on leur servait un potage réchauffé et les reliefs de la table d'hôte, ils mangeaient gloutonnement, sans parler, préoccupés surtout d'aller vite au lit. Subitement, Spyridion Scourbanias, qui avalait comme un somnambule, sortit de son assiette et, flairant l'air autour de lui, « Outre, ça sent l'ail !»« C'est vrai que ça le sent !» dit Bravida. Et tous, regardis par ce rappel de la patrie, ce fumet des plats nationaux que Tartarin n'avait plus respiré depuis longtemps, ils se retournaient sur leurs chaises avec une anxiété gourmande. Cela venait du fond de la salle, d'une petite pièce où mangeait à part un voyageur, personnage d'importance sans doute, car à tout moment la barrette du chef se montrait au guichet, ouvrant sur la cuisine pour passer à la file de service des petits plats couverts qu'elle portait dans cette direction. Quelqu'un du midi, bien sûr, murmura le doux Pascalon. Et le président, devenu blême à l'idée de Costecalde, commanda Allez donc voir, Spyridion, vous nous le direz, serait à dire. Un formidable éclat de rire partit du retrait où le brave gong venait d'entrer, sur l'ordre de son chef, et d'où il ramenait par la main un long diable au grand nez, les yeux farceurs, la serviette au menton comme le cheval gastronome. « Vé, bon part ! T'es l'imposteur ! Eh, adieu, Gonzague, comment tu vas ?»« Différemment, messieurs, je suis bien le vôtre, » dit le courrier, serrant toutes les mains et s'asseyant à table des Tarasconnais pour partager avec eux un plat de cèpe à l'ail préparé par la mère Baltais, laquelle ainsi que son mari avait horreur de la cuisine de table d'hôte. Était-ce le frigo national ou bien la joie de retrouver un pays, ce délicieux bonpart à l'imagination inépuisable? Immédiatement la fatigue et l'envie de dormir s'envolèrent. On déboucha du champagne, et la moustache toute barbouillée de mousse, il riait, poussait les cris, gesticulait, s'étreignait à la taille plein d'effusion. « Je ne vous quitte plus, V, disait Bombard. « Mes Péruviens sont partis, je suis libre. »« Libre ? Alors, demain, vous faites le bon blanc avec moi. » Ah, vous faites le bon blanc demain, répondit Bombard sans enthousiasme. Eh oui, je le souffle à Costecalde. Quand il viendra, huit, plus le bon blanc. Vous en êtes qu'est, Gonzague. J'en suis moyennant que le temps le veuille. C'est que la montée n'est pas toujours commode dans cette saison. « Ah, vaille, pas commode !» fit le bon Tartarin, frisant ses petits yeux par un rire d'augure que Bompard, du reste, ne parut pas comprendre. Passant toujours prendre le café au salon, nous consulterons le père Baltais. Il s'y connaît, lui, l'ancien guide qui a fait 27 fois l'ascension. Les délégués eurent un cri. « 27 fois ! Bouffre !» « Oh, Bompard exagère toujours !» dit le PCA sévèrement avec une pointe d'envie. Au salon, ils trouvèrent la famille du pasteur, toujours penchée sur les lettres de convocation, le père et la mère sommeillant devant leur partie de dame, et le long Suédois remuant son grog à l'eau de Cels, du même geste découragé. Mais l'invasion des alpinistes tarasconnais, allumée par le champagne, donna, comme on pense, quelques distractions aux jeunes convocatrices. Jamais ces charmantes personnes n'avait vu prendre le café avec tant de mimiques et de roulements d'yeux. « Du sucre, Tartarin ? Ben non, commandant, vous savez bien, depuis l'Afrique. Ah, c'est vrai, pardon. Et thé, voilà, monsieur Baltin. Mettez-vous là, quai, monsieur Baltin. Vive, monsieur Baltin. Ah, fin de brute !» Entouré, pressé par tous ces gens qu'il n'avait jamais vus de sa vie, le père Baltin souriait d'un air tranquille. Robuste savoyard, haut et large, le dos rond, la marche lente, sa face épaisse et rasée, s'égayait de deux yeux finaux, encore jeunes, contrastant avec sa calvitie causée par un coup de froid à l'aube dans les neiges. « Ces messieurs désirent faire le Mont-Blanc, » dit-il, jaugeant les Tarasconnais d'un regard à la fois humble et ironique. Tartarin allait répondre, « Bombard se jeta devant lui. « N'est-ce pas que la saison a bien avancé ?»« Mais non, » répondit l'ancien guide. « Ben, c'est un monsieur suédois qui montera demain, et j'attends à la fin de la semaine deux messieurs américains pour monter aussi. Il y en a même un qui est aveugle. »« Ah, je sais, je l'ai rencontré au Gudji. »« Ah, monsieur est allé au Gudji. »« Oh, il y a 8 jours, en faisant la Jungfrau. » Il y eut un frémissement parmi les convocatrices évangéliques, toutes les plumes en arrêt et les têtes levées du côté de Tartarin, qui, pour ces Anglaises, déterminées, grimpeuses, expertes à tous les sports, prenaient une autorité considérable. Il était monté à la Jungfrau. Une belle étape, dit le père Baltin, considérant le PCA avec étonnement, tandis que Pascalon, intimidé par les dames, rougissant et bégayant, murmurait « Maître, racontez-leur donc le chose, la crevasse !» Le président sourit « Enfin !» Et tout de même, il commença le récit de sa chute. D'abord, d'un air détaché, indifférent, puis avec des mouvements effarés, des gigotements au bout de la corde, sur l'abîme des appels de main tendue. Ces demoiselles frémissaient, le dévoraient de ces yeux froids des Anglaises, ces yeux qui s'ouvrent en rond. Dans le silence qui suivit, se leva la voix de Bompard. « Oh, Chimborazo, pour franchir les crevasses, nous nous attachions jamais !» Les délégués se regardèrent. Comme Tarasconna de celui-là les dépassait tous. Oh, de ce bon par moins, murmura Pascalon avec une admiration ingénue. Mais le père Baltin, prenant le Chimborazo au sérieux, protesta contre cet usage de ne pas s'attacher. Selon lui, pas d'ascension possible sur les glaces sans une corde, une bonne corde en chambre de manille. Au moins, si l'un glisse, les autres le retiennent. Moyennant que la corde ne casse pas, monsieur Baltin, dit Tartarin, rappelant la catastrophe du Mont-Cervin. Mais l'hôtelier pesant ses mots, ce n'est pas la corde qui a cassé au Cervin. C'est le guide d'arrière qui l'a coupé d'un coup de pioche. Comme Tartarin s'indignait, « Faites excuse, monsieur, le guide était dans son droit. Il a compris l'impossibilité de retenir les autres et s'est détaché d'eux pour sauver sa vie, celle de son fils et du voyageur qu'ils accompagnaient. Sans sa détermination, il y aurait eu 7 victimes au lieu de 4. » Alors, une discussion commença. Tartarin trouvait que s'attacher à la file, c'était comme un engagement d'honneur de vivre ou de mourir ensemble. Et s'exaltant, très monté par la présence des dames, il appuyait son dire sur des faits et des êtres présents. « Ainsi, demain, t'es, en m'accrochant avec mon part, Ce n'est pas une simple précaution que je prendrai. C'est un serment devant Dieu, devant les hommes, de n'être qu'un avec mon compagnon et de mourir plutôt que de rentrer sans lui, coquin de sort. J'accepte le serment pour moi comme pour vous, Tartarigne, cria Bompard de l'autre côté du guéridon. Minute épouvante. Le pasteur, électrisé, se leva et vint infliger au héros une poignée de main en coup de pompe bien anglaise. Sa femme l'imita, puis toutes ses demoiselles, continuant le check-ins avec une vigueur à faire monter l'eau à un cinquième étage. Les délégués, je dois le dire, se montraient moins enthousiastes. « Eh ben, moi, dit Bravida, je suis de l'avis de M. Valtet dans ces affaires-là. Chacun y va pour sa peau, pardi, et je comprends très bien le coup de piolet. » « Vous m'étonnez, Placide, » fit Tartarin sévèrement, et tout bas entre cuir et chair. « Tenez-vous donc malheureux, l'Angleterre nous regarde. » Le vieux brave, qui décidément gardait un fond d'aigreur depuis l'excursion de Chillon, eut un geste signifiant « Je m'en moque un peu de l'Angleterre. » Et peut-être se fut-il attiré quelques vertes semonces du président irrité de tant de cynisme, quand le jeune homme aux airs navrés, repu de grog et de tristesse, mit son mauvais français dans la conversation. Il trouvait lui aussi que le guide avait eu raison de trancher la corde. Délivrer de l'existence quatre malheureux encore jeunes, c'est-à-dire condamnés à vivre un certain temps, les rendre d'un geste au repos néant, mais quelle action noble et généreuse! Tartarin se récria. « Comme un jeune homme, à votre âge, parler de la vie, avec ce détachement, cette colère, mais qu'est-ce qu'elle vous a donc fait, la vie ?»« Moyen, elle m'ennuie. » Il étudiait la philosophie à Christiania et gagnait aux idées de Schopenhauer, de Hartmann, trouvait l'existence sombre, inepte, chaotique. Tout près du suicide, il avait fermé ses livres à la prière de ses parents et s'était mis à voyager, butant partout contre le même ennui, la sombre misère du monde. Tartarin et ses amis lui semblaient les seuls êtres contents de vivre qu'il eût encore rencontrés. Le bon PCA se mit à rire. C'est la race qui veut ça, jeune homme. Nous sommes tous les mêmes à Tarascon, le pays du bon Dieu. Du matin au soir, on rit, on chante, et le reste de temps, on danse la farandole. Comme ceci, et il se mit à battre un autre chat, avec une grâce, une légèreté de gros hanneton déployant ses ailes. Mais les délégués n'avaient pas les nerfs d'acier, l'entrain infatigable de leur chef. Excourbaniès grognait. Oh, le président s'emballe, nous sommes ici jusqu'à minuit. Bravida se levant furieux. Allons-nous cocher, je n'en puis plus de ma sciatique. Tartarin consentit, songeant à l'ascension du lendemain. Et les Tarasconnais montèrent, le bougeoir en main, le large escalier de granit conduisant aux chambres, tandis que le père Valtet allait s'occuper des provisions, retenir des mulets et des guides. « Il neige !» Ce fut le premier mot du bon Tartarin à son réveil, en voyant les vitres couvertes de givre et la chambre inondée d'un reflet blanc. Mais lorsqu'il accrocha son petit miroir à barbe à l'espagnolette, il comprit son erreur et que le Mont Blanc, étincelant en face de lui, sous un soleil splendide, faisait toute cette clarté. Il ouvrit sa fenêtre à la brise du glacier, piquante et réconfortante, qui lui apportait toutes les sonnailles en marche des troupeaux derrière les longs mugissements de trombes des bergers. Quelque chose de fort, de pastoral, remplissait l'atmosphère qu'il n'avait pas respirée en Suisse. En bas, un rassemblement de guides, de porteurs l'attendait. Le Suédois, déjà hissé sur sa bête, et mêlé aux curieux qui formaient le cercle, la famille du pasteur, toutes ces alertes demoiselles coiffées en matin, venues pour donner encore chickens aux héros qui avaient hanté leurs rêves. « Un temps superbe, dépêchez-vous !» criait l'hôtelier, dont le crâne luisait au soleil comme un galet. Mais Tartarin eut beau se presser, ce n'était pas une mince besogne d'arracher au sommeil les délégués qui devaient l'accompagner jusqu'à la pierre pointue où finit le chemin de mulet. Ni prière ni raisonnement ne purent décider le commandant à sauter du lit. Son bonnet de coton jusqu'aux oreilles, le nez contre le mur, aux objurgations du président, il se contentait de répondre par un cynique proverbe tarasconnais « Qui a bon renom de se lever le matin peut dormir jusqu'à midi. » Quant à Bompard, il répétait tout le temps « Ah, vaille le Mont-Blanc, quelle blague !» Mais il ne se leva que sur l'ordre formel du PCA. Enfin, la caravane se mit en route et traversa les petites rues de Chamonix dans un appareil fort imposant. Pascalon, sur le mulet de tête, la bannière déployée, et le dernier de la file, grave comme un mandarin parmi les guides et les porteurs groupés des deux côtés de sa mule, le bon Tartarin, plus extraordinairement alpiniste que jamais, avec une paire de lunettes neuves aux verres bombés et fumés, et sa fameuse corde, fabriquée en Avignon, on sait à quel prix reconquise. Très regardé, presque autant que la bannière, il jubilait sous son masque important, s'amusait du pittoresque de ces rues du village savoyard, si différent du village suisse, trop propre, trop vernissé, sentant le joujou neuf, le chalet de bazar, du contraste de ces masures à peine sorties de terre, où l'étable tient toute la place, côté des grands hôtels somptueux de 5 étages, dont les enseignes rutilantes détonnaient, comme la casquette galonnée d'un portier, l'habit noir et les escarpins d'un maître d'hôtel au milieu des coiffes savoyardes, des vestes de futaine et des feutres de charbonniers à larges ailes. Sur la place, des landaus dételés, des berlines de voyage, à côté de charrettes de fumier. Un troupeau de porcs flânant au soleil, devant le bureau de poste d'où sortait un Anglais en chapeau de toile blanche, avec un paquet de lettres et un numéro du Times qu'il lisait en marchant avant d'ouvrir sa correspondance. La cavalcade des Tarasconnais traversait tout cela, accompagné par le piétinement des mulets, le cri de guerre des Scourbagnès, à qui le soleil rendait l'usage de son gong, le carillon pastoral étagé sur les pentes voisines, et le fracas de la rivière en torrent jaillie du glacier, toute blanche étincelante, comme si elle charriait du soleil et de la neige. À la sortie du village, Bompard approcha sa mule de celle du président et lui dit, roulant des yeux extraordinaires, « Tartarine, il faut que je vous parle. » « Tout à l'heure, » dit le PCA, engagé dans une discussion philosophique avec le jeune Suédois dont il essayait de combattre le noir pessimisme par le merveilleux spectacle qui les entourait, ces pâturages aux grandes zones d'ombre et de lumière, ces forêts d'un vert sombre crêtées de la blancheur des névés éblouissants. Après 2 tentatives pour se rapprocher de Tartarin, Bompard renonça de force. L'arve franchie sur un petit pont, la caravane venait de s'engager dans un de ces étroits chemins enlacés au milieu des sapins, où les mulets, un par un, découpent de leurs sabots fantasques toutes les sinuosités des abîmes, et nos Tarasconnais n'avaient pas assez de leur attention pour se maintenir en équilibre. L'aide des « allons doucement » ou « outre » dont ils retenaient leurs bêtes. Au chalet de la Pierre Pointue, dans lequel Pascalon et Excourbagnès devaient attendre le retour des ascensionnistes, Tartarin, très occupé de commander le déjeuner et de veiller à l'installation des porteurs et des guides, fit encore la sourde oreille au chuchotement de Bompard. Mais, chose étrange et qu'on ne remarqua que plus tard, malgré le beau temps, le bon vin, cette atmosphère épurée à 2000 mètres au-dessus de la mer, le déjeuner fut mélancolique. Pendant qu'ils entendaient les guides rire et s'égayer à côté, la table des Tarasconnais restait silencieuse, livré seulement au bruit du service, tintement des verres, de la grosse vaisselle et des couverts sur le bois blanc. Était-ce la présence de ce Suédois morose ou l'inquiétude visible de Gonzague ou encore quelques pressentiments? La bande se mit en marche, triste comme un bataillon sans musique, vers le glacier des Bossons, où la véritable ascension commençait. En posant le pied sur la glace, Tartarin ne put s'empêcher de sourire au souvenir du Gucci et de ses crampons perfectionnés. Quelle différence entre le néophyte qu'il était alors et l'alpiniste de premier ordre qu'il se sentait devenu! Solide sur ses lourdes bottes que le portier de l'hôtel lui avait ferrées le matin même de 4 gros clous. Expert à se servir de son piolet, c'est à peine s'il eut besoin de la main d'un de ses guides, moins pour le soutenir que pour lui montrer le chemin. Les lunettes fumées atténuaient la réverbération du glacier qu'une récente avalanche poudrait de neige fraîche, où des petits lacs d'un vert glauque s'ouvraient, çà et là, glissants et traîtres. Et, très calme, assuré par expérience qu'il n'y avait pas le moindre danger, Tartarin marchait le long des crevasses aux parois chatoyantes et lisses, s'approfondissant à l'infini, passait au milieu des séracs avec l'unique préoccupation de tenir pied à l'étudiant suédois, intrépide marcheur, dont les longues guêtres bouclées d'argent s'allongeaient minces et sèches, et de la même détente à côté de son alpenstock qui semblait une troisième jambe. Et leur discussion philosophique continuant en dépit des difficultés de la route, on entendait sur l'espace gelé, sonore comme la largeur d'une rivière, une bonne grosse voix, familière et essoufflée. « Vous me connaissez, Otto ?» Bompard, pendant ce temps, subissait mille mésaventures. Fermement convaincu encore le matin que Tartarin n'irait jamais jusqu'au bout de sa vantardise et ne ferait pas plus le Mont-Blanc qu'il n'avait fait la Jungfrau, le malheureux courrier s'était vêtu comme à l'ordinaire, sans clouter ses bottes, ni même utiliser sa fameuse invention pour ferrer les pieds des militaires, sans alpenstock non plus, les montagnards du Chimborazo ne s'en servant pas. Seulement armé de la badine qui allait bien avec son chapeau à ganses bleues et son ulster, l'approche du glacier le terrifia. Car malgré toutes ces histoires, on pense bien que l'imposteur n'avait jamais fait l'ascension. Il se rassura pourtant en voyant du haut de la moraine avec quelle facilité Tartarin évoluait sur la glace et se décida à le suivre jusqu'à la halte des Grands Mulets où l'on devait passer la nuit. Il n'y arriva point sans peine. Au premier pas, il s'étala sur le dos, la seconde fois en avant sur les mains et sur les genoux. « Non, merci, c'est exprès, » affirmait-il au guide, essayant de relever. « À l'américaine V, comme au Chimborazo. » Cette position lui paraissant commode, il la garda, s'avançant à quatre pattes, le chapeau en arrière, l'ulster balayant la glace comme une pelure d'ours gris. Très calme avec cela, et racontant autour de lui que, dans la cordillère des Andes, il avait grimpé ainsi une montagne de 10 000 mètres. Il ne disait pas en combien de temps, par exemple, et cela avait dû être long à en juger par cette étape des grands mulets, où il arriva 1 heure après Tartarin, et tout dégouttant de neige boueuse, les mains gelées sous ses gants de tricot. À côté de la cabine du Gucci, celle que la commune de Chamonix avait construire au Grand Mulet, évidemment confortable. Quand Bompard entra dans la cuisine où flambait un grand feu de bois, il trouva Tartarin et le Suédois en train de sécher leurs bottes, pendant que l'aubergiste, un vieux racorni aux longs cheveux blancs tombant en mèches, étalait devant eux les trésors de son petit musée. Sinistre, ce musée, fait des souvenirs de toutes les catastrophes qui avaient eu lieu au Mont-Blanc depuis plus de 40 ans que le vieux tenait l'auberge. Et en les retirant de leur vitrine, ils racontaient leur origine lamentable. Ah, ce morceau de drap, ces boutons de gilet, tenaient la mémoire d'un savant russe précipité par l'ouragan sur le glacier de la Brenva. Ah, ces maxillaires restaient d'un des guides de la fameuse caravane de 11 voyageurs et porteurs disparus dans une tourmente de neige. Sous le jour tombant et le pâle reflet des névés contre les carreaux, l'étalage de ces reliques mortuaires, ces récits monotones avaient quelque chose de poignant, d'autant que le vieillard attendrissait sa voix tremblante aux endroits pathétiques, trouvait des larmes en dépliant un bout de voile vert d'une dame anglaise roulée par l'avalanche en 1827. Tartarin avait beau se rassurer par les dates, se convaincre qu'à cette époque la compagnie n'avait pas organisé les ascensions sans danger, ce Vachero savoyard lui serrait le cœur et il alla respirer un moment sur la porte. La nuit était venue, engloutissant les fonds. Les bossons ressortaient livides et tout proches, tandis que le Mont Blanc dressait une cime encore rosée, caressait le soleil disparu. Le méridional se rassérénait à ce sourire de la nature quand l'ombre de Bompard se dressa derrière lui. « Ah, c'est vous, Gonzague, vous voyez, je prends le bon de l'air. Il m'embêtait, ce vieux, avec ses histoires. » « Tartarigne, » dit Bompard, lui serrant le bras de le broyer. « J'espère qu'en voilà assez que vous allez vous en tenir là, de cette ridicule expédition. » Le grand homme arrondit les yeux inquiets. « Qu'est-ce que vous chantez ?» Alors Bompard lui fit un tableau terrible des 1 000 morts qui le menaçaient, les crevasses, les avalanches, coups de vent, tourbillons. Tartarin l'interrompit. « Ah oui, farceur, et la compagnie ? Le Mont-Blanc n'est donc pas aménagé comme les autres ?»« Aménagé la compagnie, » dit Bompard ahuri, ne se rappelant plus rien de sa tarasconnade. Et l'autre la lui répétant mot pour mot, « La Suisse en société, l'affermage des montagnes, les crevasses truquées. » L'ancien gérant se mit à rire. « Comment ? Vous avez cru ? Mais c'était une galéjade !»« Entre gens de Tarascon, pas moi, c'est bien ce que parler veut dire. Alors, demanda Tartarin très ému, la Jungfrau n'était pas préparée? Pas plus. Et si la corde avait cassé? Ah, mon pauvre ami! Le héros ferma les yeux, pâle d'une épouvante rétrospective, et pendant une minute il hésita. Ce paysage en cataclysme polaire, froid, assombri, accidenté de gouffres, ces lamentations du vieil aubergiste encore pleurantes à ses oreilles, autre que vous me feriez dire. Puis tout à coup, il pensa aux Jans de Tarascon, à la bannière qui le ferait flotter là-bas. Il se dit qu'avec le bon guide, un compagnon à toute épreuve comme mon part, il avait fait la Jungfrau. Pourquoi ne t'en tirait-il pas le Mont Blanc? Et posant sa large main sur l'épaule de son ami, il commença d'une voix virile. « Écoutez, Gonzague. Chapitre 13. La catastrophe. Par une nuit noire, noire, sans lune, sans étoiles, sans ciel, sur la blancheur tremblotante d'une immense pente de neige, lentement se déroule une longue corde où les ombres craintives et toutes petites sont attachées à la file, précédée à 100 mètres d'une lanterne en taches rouges presque au ras du sol. Des coups de piolet sonnant dans la neige dure, le roulement des glaçons détachés dérange seul le silence d'une évée où s'amortissent les pas de la caravane, puis de minute en minute, un cri, une plainte étouffée, la chute d'un corps sur la glace, et tout de suite une grosse voix qui répond du bout de la corde « Allez, doucement de tomber, Gonzague !» Car le pauvre Bompard s'est décidé à suivre son ami Tartarin jusqu'au sommet du Mont Blanc. Depuis 2 heures du matin, il en est 4 à la montre à répétition du président, le malheureux courrier s'avance à tâtons, vrai forçat de la chaîne, traîné, poussé, vacillant et bronchant, contraint de retenir les exclamations diverses que lui arrache sa mésaventure, l'avalanche guettant de tous côtés et le moindre ébranlement, une vibration un peu forte de l'air cristallin, pouvant déterminer des tombées de neige ou de glace. Souffrir en silence, quel supplice pour un homme de Tarascon. Mais la caravane a fait halte. Tartarin s'informe. On entend une discussion à voix basse, des chuchotements animés. C'est votre compagnon qui ne veut plus avancer, répond le Suédois. L'ordre de marche est rompu, le chapelet humain se détend, revient sur lui-même, et les voilà tous au bord d'une énorme crevasse, ce que les montagnards appellent une roture. On a franchi les précédentes à l'aide d'une échelle mise en travers et qu'on passe sur les genoux, mais ici la crevasse est beaucoup trop large, et l'autre bord se dresse en hauteur de 80 à 100 pieds. Il s'agit de descendre au fond du trou qui se rétrécit à l'aide de marches creusées au piolet et de remonter pareillement. Mais Bompard s'y refuse avec obstination. Penché sur le gouffre que l'ombre fait paraître insondable, il regarde s'agiter dans une buée la petite lanterne des guides préparant le chemin. Tartarin, peu rassuré lui-même, se donne du courage en exhortant son ami. « Allons, Gonzague, joue !» Et tout bas, il le sollicite. L'honneur invoque Tarascon, la bannière, le club des Alpines. « Ah, voyez le club, je n'en suis pas !» répond l'autre cyniquement. Alors Tartarin lui explique qu'on lui posera les pieds, que rien n'est plus facile. « Pour vous peut-être, mais pas pour moi. » Mais pas moins. Vous disiez que vous aviez l'habitude. Eh ben oui, certainement l'habitude, mais laquelle? J'en ai tant l'habitude de fumer, de dormir. De mentir, surtout, interrompt le président. D'exagérer, alors, dit Bompard, sans s'émouvoir le moins du monde. Cependant, après bien des hésitations, la menace de le laisser là tout seul le décide à descendre lentement, posément, cette terrible échelle de meunier. Remonter est plus difficile sur l'autre paroi droite et lisse comme un marbre et plus haute que la tour du roi René de Carascon. D'en bas, la clignante lumière des guides semble un verre luisant en marbre. Il faut se décider pourtant. La neige sous les pieds n'est pas solide, des glouglous de fonte et d'eau circulante s'agitent autour d'une large fissure qu'on devine plutôt qu'on ne la voit, au pied du mur de glace et qui souffle son haleine froide d'abîme souterrain. Allez doucement de tomber, Gonzague! Cette phrase que Tartarin profère d'une intonation attendrie, presque suppliante, emprunte une signification solennelle à la position respective des ascensionnistes, cramponnés maintenant des pieds et des mains, les uns au-dessous des autres, liés par la corde et par la similitude de leurs mouvements, si bien que la chute ou la maladresse d'un seul les mettrait tous en danger. Et quel danger qu'en cas de sort! Il suffit d'entendre rebondir et redégringoler les débris de glaçons avec l'écho de la chute par les crevasses et les dessous inconnus pour imaginer quelle gueule de monstre vous guette et vous apprête au moindre faux pas. Mais qu'y a-t-il encore? Voilà que le long Suédois, qui précède justement Tartarin, s'est arrêté et touche de ses talons ferrés la casquette du PCA. Les guides ont beau crier: En avant! Et le président: Avancez donc, jeune homme! Rien ne bouge. Dressé de son long, accroché d'une main négligente, le Suédois se penche. Et le jour levant effleure sa barbe grêle, éclaire la singulière expression de ses yeux dilatés, pendant qu'il fait signe à Tartarin. Quelle chute, hein, si on lâchait! Oh, outre, je crois bien, vous nous entraîneriez tous, allez, montez donc! L'autre continue immobile. Belle occasion pour en finir avec la vie, rentrer au néant par les entrailles de la terre, rouler de crevasse en crevasse, comme ceci que je détache de mon pied. Et il s'incline effroyablement pour suivre le quartier de glace qui rebondit et sonne sans fin dans la nuit. Malheureux, prenez garde! Crie Tartarin, blême d'épouvante. Et désespérément cramponné à la paroi suintante, il reprend d'une chaude ardeur son argument de la veille en faveur de l'existence. Alors, du bon, que diantre! À votre âge, un bon garçon comme vous! Vous ne croyez donc pas à l'amour, qu'est? Non, le Suédois n'y croit pas. L'amour idéal est un mensonge des poètes. L'autre voit un besoin qu'il n'a jamais ressenti. Ben oui, c'est vrai que les poètes sont un peu de Tarascon. Ils en disent toujours plus qu'il n'y en a, mais pas moins. C'est gentil le fait malin, comme on l'appelle les dames chez nous. Puis on a des enfants, des jolis mignons, qui vous ressemblent. Ben oui, les enfants ont une source de chagrin. Depuis qu'elle m'a eu, ma mère n'a cessé de pleurer. Écoutez, Otto, vous me connaissez, mon bon ami. et de toute l'expansion valeureuse de son âme. Tartarin s'épuise à ranimer, à frictionner à distance cette victime de Schopenhauer et de Hartmann, de polichinelle qu'il voudrait tenir au coin d'un bois, quand qu'elle sort, pour leur faire payer tout le mal qu'ils ont fait dans la jeunesse. Qu'on se représente pendant ces discussions philosophiques la haute muraille de glace, froide, glauque, ruisselante, frôlée d'un rayon pâle, et cette brochée de corps humains plaqués dessus en échelons, avec les sinistres gargouillements qui montent des profondeurs béantes et blanchâtres, les jurons des guides, leurs menaces de se détacher et d'abandonner leurs voyageurs. À la fin, Tartarin, voyant que nul raisonnement ne peut convaincre ce fou, ni dissiper son vertige de mort, lui suggère l'idée de se jeter de la pointe extrême du Mont Blanc. À la bonne heure, ça vaudrait la peine de là-haut, une belle fin dans les éléments, mais ici, au fond d'une cave, ah vaille, quelle foutaise! Il y met tant d'accent, à la fois brusque et persuasif, eut telle conviction que le Suédois se laisse vaincre. Et les voilà enfin, un par un, en haut de cette terrible roture. On se détache, on fait halte pour boire un coup et casser une croûte. Le jour est venu. Un jour froid et blême sur un cirque grandiose de pics de flèches dominé par le Mont Blanc encore à 1500 mètres. Les guides à part gesticulent et se concertent avec des hochements de tête. Sur le sol tout blanc, lourds et ramassés, le dos rond dans leur veste brune, on dirait des marmottes prêtes à remiser pour l'hiver. Bompard et Tartarin, inquiets, transis, ont laissé le Suédois manger tout seul et se sont approchés au moment où le guide-chef disait d'un air grave « C'est qu'il fume sa pipe, il n'y a pas à dire que non. » « Qui donc fume sa pipe ?» demanda Tartarin. « Le Mont-Blanc, monsieur, regardez !» Et l'homme montre tout au bout de la haute cime comme une aigrette, une fumée blanche qui va vers l'Italie. Et autrement, mon bon ami, quand le Mont Blanc fume sa pipe, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, monsieur, qu'il fait un vent terrible au sommet, une tempête de neige qui sera sur nous avant longtemps, et dame, c'est dangereux. Revenons, dit Bompard verdissant. Et Tartarin ajoute « Oui, oui, certaines même, mais pas de son amour propre. » Mais le Suédois s'en mêle. Il a payé pour qu'on le mêle au Mont Blanc. Rien ne l'empêchera d'y aller. Il y montera seul, si personne ne l'accompagne. « Lâche, lâche » ajoute-t-il, tourné vers les guides. Et il leur répète l'injure de la même voix de revenant dont il s'excitait tout à l'heure au suicide. Vous allez bien voir si nous sommes des lâches, qu'on s'attache en route, s'écrie le guide-chef. Cette fois, c'est Bompard qui proteste énergiquement. Il en a assez, il veut qu'on le ramène. Tartarin l'appuie avec vigueur. Mais vous voyez bien que ce jeune homme est fou, s'écrie-t-il en montrant le Suédois déjà parti à grandes enjambées sous les floches de neige que le vent commence à chasser de toutes parts. Mais rien n'arrêtera plus ces hommes que l'on a traités de lâches. Les marmottes se sont réveillées, héroïques, et Tartarin ne peut obtenir un conducteur pour le ramener avec Bompard au Grand Mulet. D'ailleurs, la direction est simple, 3 heures de marche, en comptant un écart de 20 minutes pour tourner la grande rupture, si elle les effraie, à passer tout seul. Outre, oui, qu'elle nous effraie, fait Bompard, sans pudeur aucune. Et les deux caravanes se séparent. À présent, les Tarasconnais sont seuls. Ils avancent avec précaution sur le désert de neige, attachés à la même corde. Tartarin en avant, tâtant de son piolet gravement, pénétré de la responsabilité qui lui incombe, y cherchant un réconfort. Courage, du sang-froid, nous nous en tirerons, crie-t-il chaque instant à Bompard. Ainsi l'officier dans la bataille chasse la peur qu'il a en brandissant son épée et criant à ses hommes « En avant, sinon de Dieu, toutes les balles ne tuent pas !» Enfin, les voilà au bout de cette horrible crevasse. D'ici au but, ils n'ont plus d'obstacles bien graves, mais le vent souffle, les aveugle de tourbillons neigeux. La marche devient impossible, sous peine de s'égarer. « Arrêtons-nous un moment, » dit Tartarin. Un sérac de glace gigantesque leur creuse un abri à sa base. Ils s'y glissent, étendent la couverture doublée de caoutchouc du président et débouchent la gourde de rhum, seule provision que n'aient pas emporté les guides. Il s'ensuit alors un peu de chaleur et de bien-être, tandis que les coups de piolet, toujours plus faibles sur la hauteur, les avertissent du progrès de l'expédition. Cela résonne au fond du PCA comme un regret de n'avoir pas fait le Mont-Blanc jusqu'aux cimes. « Qui le saura ?» riposte Bombard cyniquement. « Les porteurs ont conservé la bannière. De Chamonix, on croira que c'est vous. » « Vous avez raison, l'honneur de Tarascon est sauf. » conclut Tartarin d'un ton convaincu. Mais les éléments s'acharnent, la bise en ouragan, la neige par paquet. Les deux amis se taisent, hantés d'idées sinistres. Ils se rappellent l'ossuaire sous la vitrine du vieil aubergiste, ses récits lamentables, la légende de ce touriste américain qu'on a retrouvé pétrifié de froid et de faim, tenant dans sa main crispée un carnet où ses angoisses étaient écrites jusqu'à la dernière convulsion qui fit glisser le crayon et dévier la signature. « Avez-vous un carnet, Gonzague ?» Et l'autre, qui comprend sans explication, « Ah oui, un carnet. Si vous croyez que je vais me laisser mourir comme cet Américain, allez vite, allons-nous-en, sortons d'ici. » « Impossible, au premier pas, nous serions emportés comme une paille, jetés dans quelque abîme. »« Alors, il faut appeler, l'auberge n'est pas loin. » Et Bompard à genoux, la tête hors du sérac, dans la pose d'une bête au pâturage et mugissante, hurle « au secours, à moi !»« Aux armes !» crie à son tour Tartarin de son creux le plus sonore, que la grotte répercute en tonnerre. Bompard lui saisit le bras. Malheureux, le sérac ! Positivement, tout le bloc a tremblé. Encore un souffle, et cette masse de glaçons accumulée croulerait sur leur tête. Ils restent figés, immobiles, enveloppés d'un effrayant silence, bientôt traversé d'un roulement lointain qui se rapproche, grandit, envahit l'horizon, meurt enfin sous la terre de gouffre en gouffre. « Les pauvres gens !» murmure Tartarin, pensant aux Suédois et à ses guides, saisis, emportés sans doute par l'avalanche. Et Bompard, hochant la tête, « Oh, nous ne valons guère mieux qu'eux !» En effet, leur situation est sinistre, n'osant bouger dans leur grotte de glace, ni se risquer dehors sous les rafales. Pour achever de leur serrer le cœur, du fond de la vallée, monte un aboiement de chien hurlant à la mort. Tout à coup, Tartarin, les yeux gonflés, les lèvres grelottantes, prend les mains de son compagnon et le regardant avec douceur. « Pardonnez-moi, Gonzague, oui, oui, pardonnez-moi. Je vous ai rudoyé tantôt, je vous ai traité de menteur. Ouais, ouais, qu'est-ce que ça fait? J'en avais le droit moins que personne, car j'ai beaucoup menti dans ma vie. À cette heure suprême, j'éprouve le besoin de m'ouvrir, de me dégonfler, d'avouer publiquement mes impostures. » « Des impostures, vous ? Ah, écoutez-moi, ami. D'abord, je n'ai jamais tué de lion. Mais ça ne m'étonne pas, fait Bombard tranquillement. Mais est-ce qu'il faut se tourmenter pour si peu ? C'est notre soleil qui veut ça. On est avec le mensonge. Mais moi, ai-je dit une vérité depuis que je suis au monde ? Dès que j'ouvre la bouche, mon midi me monte comme une attaque. Les gens dont je parle, je ne les connais pas. Les pays, je n'y suis jamais allé. Et tout ça fait un tel tissu d'invention que je ne m'y épouille plus moi-même. C'est l'imagination, pécheur, soupire Tartarin. Nous sommes des menteurs par imagination. Mais ces mensonges-là n'ont jamais fait de mal à personne, tandis qu'un méchant, un envieux comme Costecalde, en ne parlant jamais de ce misérable, interrompt le PCA, et pris d'un subit accès de rage, coquin de bon sort, c'est tout de même un peu fichant. Il s'arrête sur un geste terrifié de Bompard. Ah, ah oui, le Sérac, et baissant le ton, forcé de chuchoter sa colère, le pauvre Tartarin continue ses imprécations à voix basse dans une énorme et comique désarticulation de la bouche. Un peu fichant de mourir à la fleur de l'âge par la faute d'un scélérat qui, dans ce moment, prend bien tranquillement sa demi-tasse sur le tour de ville. Mais pendant qu'il fulmine, une éclaircie s'ouvre peu à peu dans l'air. Il ne neige plus, il ne vente plus, et des écarts bleus apparaissent, déchirant le gris du ciel. Oh, vite en route et rattachés tous deux à la corde, Tartarin, qui a pris la tête comme tout à l'heure, se retourne un doigt sur la bouche. Et vous savez, Gonzague, tout ce que nous venons de dire reste entre nous. T'es pardi! Plein d'ardeur, ils repartent, enfonçant jusqu'aux genoux dans la neige fraîchement tombée qui engloutit sous sa ouate immaculée les traces de la caravane. Aussi, Tartarin consulte sa boussole toutes les 5 minutes. Mais cette boussole tarasconnaise, habituée au chaud climat, est frappée de congélation depuis son arrivée en Suisse. L'aiguille joue aux 4 coins, agitée et hésitante. Et ils marchent devant eux, attendant de voir se dresser tout à coup les roches noires des grands mulets, dans la blancheur uniforme, silencieuse, en pic, en aiguille, en mamelon, qui les entoure, les éblouit, les épouvante aussi, car elle peut recouvrir de dangereuses crevasses sous leurs pieds. Du sang-froid, Gonzague, du sang-froid! « Mais c'est justement de ça que je manque, » répond Bompard lamentablement. Et il gémit. « Aïe de mon pied, aïe de ma jambe. Oh, nous sommes perdus. Jamais nous n'arriverons. » Il marche depuis 2 heures, lorsque, vers le milieu d'une pente de neige très dure à grimper, Bompard s'écrie effaré. « Tartarine ! Mais ça monte! Eh, je le vois, parbleu, bien que ça monte, riposte le PCA, en train de perdre sa sérénité. Mais pas moyen, ça m'en a dit, ça devrait descendre. Mais oui, mais que voulez-vous que j'y fasse? Allons toujours jusqu'en haut, peut-être que ça descendra de l'autre côté. Cela descendait en effet, et terriblement. par une succession de névées, de glaciers presque à pic, et tout au bout de cet intestellement de blancheur neigeuse, une cabane s'apercevait, piquée sur une roche à des profondeurs qui semblaient inaccessibles. C'était un asile à atteindre avant la nuit, puisqu'on avait perdu la direction des grands mulets, mais au prix de quels efforts, de quels dangers peut-être. Surtout ne me lâchez pas, Quai Gonzague. N'y voulons plus, Tartarine. Ils échangèrent ces recommandations sans se voir, séparés par une arête derrière laquelle Tartarin a disparu, avançant l'un pour monter, l'autre pour descendre, avec lenteur et terreur. Ils ne se parlent même plus, concentrant toutes leurs forces vives, crainte d'un faux pas, d'une glissade. Tout à coup, comme il n'est plus qu'à 1 mètre de la crête, Bompard entend un cri terrible de son compagnon, en même temps qu'il sent la corde se tendre d'une violente et désordonnée secousse. Il veut résister, se cramponner pour retenir son compagnon sur l'abîme. Mais la corde était vieille, sans doute, car elle se rompt brusquement sous l'effort. « Outre ! Bouffre !» Ces deux cris se croisent, sinistres, déchirant le silence et la solitude, puis un calme effrayant, un calme de mort, que rien ne trouble plus dans la vastitude des neiges immaculées. Vers le soir, un homme ressemblant vaguement à Bompard, un spectre aux cheveux dressés, boueux, ruisselant, arrivait à l'auberge des grands mulets où on le frictionnait, le réchauffait, le couchait, avant qu'il eût prononcé d'autres paroles que celles-ci, entrecoupées de larmes et de poings levés au ciel. « Tartarin, perdu, cassez la corde !» Enfin, on put comprendre le grand malheur qui venait d'arriver. Pendant que le vieil aubergiste se lamentait et ajoutait un nouveau chapitre au sinistre de la montagne, en attendant que son ossuaire s'enrichît des restes de l'accident, le Suédois et ses guides, revenus de leur expédition, se mettaient à la recherche de l'infortuné Tartarin, avec des cordes, des échelles, enfin tout l'attirail d'un sauvetage, hélas, infructueux. Bompard, resté comme ahuri, ne pouvait fournir aucun indice précis, ni sur le drame, ni sur l'endroit où il avait eu lieu. On trouva seulement, au dôme du goûter, un bout de corde resté dans une anfractuosité de glace. Mais cette corde, chose singulière, était coupée aux deux bouts, comme avec un instrument tranchant. Les journaux de Chambéry en donnèrent un fac-similé. Enfin, après 8 jours de course, de consciencieuses recherches, quand on eut la conviction que le pauvre président était introuvable, perdu sans retour, les délégués désespérés prirent le chemin de Tarascon, ramenant Bompard dont le cerveau ébranlé gardait la trace d'une terrible secousse. « Ne me parlez pas de ça, répondait-il quand il était question du sinistre, ne m'en parlez jamais. » Décidément, le Mont-Blanc comptait une victime de plus, et quelle victime! Chapitre 14, épilogue. D'endroit plus impressionnable que Tarascon, il ne s'en est jamais vu sous le soleil d'aucun pays. Parfois, en plein dimanche de fête, toute la ville dehors, les tambourins en rumeur, le cours grouillant et tumultueux, émaillé de jupes vertes, rouges, de fichus arlésiens et sur de grandes affiches multicolores l'annonce des luttes pour hommes et demi-hommes, des courses de taureaux tamarguées, il suffit d'un farceur criant « Au chien fou !» ou bien « Un bœuf échappé !» Et l'on court, on se bouscule, on s'effare. Les portes se ferment de tous leurs verrous, les persiennes claquent comme par un orage, et voilà Tarascon, désert, muet, sans un chat, sans un bruit, les cigales elles-mêmes, blotties et attentives. C'était l'aspect de ce matin-là, qui n'était pourtant ni fête ni dimanche. Les boutiques closes, les maisons mortes, places et placettes comme agrandies par le silence et la solitude. « Vasta silentio » dit Tacite, décrivant Rome aux funérailles de Germanicus, et la citation de sa Rome en deuil s'appliquait d'autant mieux à Tarascon qu'un service funèbre pour l'âme de Tartarin se disait en ce moment à la métropole où la population en masse pleurait son héros, son dieu, son invincible à double muscle resté dans les glaciers du Mont-Blanc. Or, pendant que le glas égrenait ses lourdes notes sur les rues désertes, Mademoiselle Tournatoire, la sœur du médecin, que son mauvais état de santé retenait toujours à la maison, morfondue dans son grand fauteuil contre la vitre, regardait dehors en écoutant les cloches. La maison des Tournatoires se trouve sur le chemin d'Avignon, presque en face de celle de Tarentin, et la vue de ce logis illustre dont le locataire ne devait plus revenir, la grille pour toujours fermée du jardin, tout jusqu'aux boîtes à cirage des petits Savoyards alignés près de la porte, gonflait le cœur de la pauvre demoiselle infirme qu'une passion secrète dévorait depuis plus de 30 ans pour le héros tarasconnais. Oh, mystère d'un cœur de vieille fille! C'était sa joie de le guetter passer à des heures régulières, de se dire « Où va-t-il ?» de surveiller les modifications de sa toilette, qu'il s'habillât en alpiniste ou revêtît sa jaquette de vert serpent. Maintenant, elle ne le verrait plus, et cette consolation même lui manquait d'aller prier pour lui avec toutes les dames de la ville. Soudain, la longue tête de cheval blanc de Mademoiselle Tournatoire se colora légèrement. Ses yeux déteints, bordés de rose, se dilatèrent d'une manière considérable, pendant que sa maigre main aux rides saillantes esquissait un grand signe de croix. Lui, c'était lui, longeant les murs de l'autre côté de la chaussée. D'abord, elle crut à une apparition hallucinante. Non, Tartarin lui-même, en chair et en os, seulement pâli, piteux, loqueteux, longeant les murs comme un pauvre ou comme un voleur. Mais, pour expliquer sa présence furtive à Tarascon, il nous faut retourner sur le Mont-Blanc, au dôme du goûter, à cet instant précis où les deux amis, se trouvant chacun sur un côté du dôme, Bompard sentit le lien qui les attachait brusquement se tendre comme par la chute d'un corps. En réalité, la corde s'était prise entre deux glaçons, et Tartarin, éprouvant la même secousse, crut lui aussi que son compagnon roulait et l'entraînait. Alors à cette minute suprême, enfin, comment dire cela, mon Dieu, dans l'angoisse de la peur, tous deux, oubliant le serment solennel à l'hôtel Baltais, d'un même mouvement, d'un même geste instinctif, coupèrent la corde, Bompard avec son couteau, Tartarin d'un coup de piolet. Puis, épouvantés de leur crime, convaincus l'un et l'autre qu'ils venaient de sacrifier leur ami, ils s'enfuirent dans des directions opposées. Quand le spectre de Bompard arriva au Grand Mulet, Celui de Tartarin apparaissait à la cantine de la Vesaille. Comment? Par quel miracle? Après combien de chutes, de glissades? Le Mont-Blanc seul aurait pu le dire, car le pauvre PCA resta 2 jours dans un complet abrutissement, incapable de proférer le moindre son. Dès qu'il fut en état, on le descendit à Courmayeur, qui est le Chamonix italien. À l'hôtel où il s'installa pour achever de se remettre, il n'était bruit que d'une épouvantable catastrophe arrivée au Mont-Blanc, tout à fait le pendant de l'accident du Cervin. Encore un alpiniste englouti par la rupture de la corde. Dans sa conviction qu'il s'agissait de Bompard, Tartarin rongeait le remords, n'osait plus rejoindre la délégation ni retourner au pays. D'avance, il voyait sur toutes les lèvres, dans tous les yeux, « Caïn, qu'as-tu fait de ton frère ?» Pourtant, le manque d'argent, la fin de son linge, les frimas de septembre qui arrivaient et vidaient les hôtelleries, l'obligèrent à se mettre en route. Après tout, personne ne l'avait vu commettre son crime. Rien ne l'empêcherait d'inventer n'importe quelle histoire. Et les distractions du voyage aidant, il commençait à se remettre. Mais aux approches de Tarascon, quand il vit s'iriser sous le ciel bleu la fine découpure des Alpines, tout le ressaisit, honte, remords, crainte de la justice, et pour éviter l'éclat d'une arrivée en pleine gare, il descendit à la dernière station avant la ville. Ah, sur cette belle route tarasconnaise, toute blanche et craquante de poussière, sans autre ombrage que les poteaux et les fils télégraphiques, sur cette voie triomphale où tant de fois il avait passé à la tête de ses alpinistes ou de ses chasseurs de casquettes, qui l'aurait reconnu, lui, le vaillant, le pimpant, sous ses hardes déchirées et malpropres, avec cet œil méfiant du routier guettant les gendarmes? L'air brûlait, malgré qu'on fût au déclin de la saison, et la pastèque qu'il acheta à un maraîcher lui parut délicieuse à manger dans l'ombre courte du charton, pendant que le paysan exhalait sa fureur contre les ménagères de Tarascon, toutes absentes du marché ce matin-là, rapport à une messe noire qu'on chantait pour quelqu'un de la ville perdu au fond d'un trou là-bas dans les montagnes. Les cloches qui sonnent, elles s'entendent d'ici. Plus de doute, c'est pour Bompard que tombait ce lugubre carillon de mort, secoué par un vent tiède sur la campagne solitaire. Quel accompagnement à la rentrée du grand homme dans sa patrie! Une minute, quand la porte du petit jardin brusquement ouverte et refermée, Tartarin se retrouva chez lui, qu'il vit les étroites allées bordées de buis ratissés et proprettes, le bassin, le jet d'eau, les poissons rouges s'agitant au craquement du sable sous ses pas, et le baobab, géant dans son pot à réséda. Un bien-être attendri, la chaleur de son gîte de lapin de chou, et l'enveloppa comme une sécurité après tant de dangers et d'aventures. Mais les cloches, les maudites cloches, redoublèrent. La tombée des grosses notes noires lui écrasa de nouveau le cœur. Elle lui disait, sur le mode funèbre, « Caïn, qu'as-tu fait de ton frère ? Tartarin, qu'est devenu Bompard ?» Alors, sans le courage d'un mouvement, il s'assit sur la margelle brûlante du petit bassin et restait là, anéanti, effondré, au grand émoi des poissons rouges. Les cloches ne sonnent plus. Le porche de la métropole bruyant tout à l'heure est rendu au marmottement de la pauvresse assise à gauche et à l'immobilité de ses seins de pierre. La cérémonie religieuse terminée, tout Tarascon est porté au club des Alpines, où dans une séance solennelle, Bompard doit faire le récit de la catastrophe et détailler les derniers moments du PCA. En dehors des membres, quelques privilégiés, armées, clergés, noblesse, haut commerce, ont pris place dans la salle des conférences, dont les fenêtres larges ouvertes permettent à la fanfare de la ville installée en bas sur le perron de mêler quelques accords héroïques ou plaintifs au discours de ces messieurs. Une foule énorme se presse autour des musiciens, se hisse sur ses pointes, les coups tendus, essayant d'attraper quelques bribes de la séance. Mais les fenêtres sont trop élevées et l'on n'aurait aucune idée de ce qui se passe, sans deux ou trois petits drôles branchés dans un gros platane et jetant de là des renseignements comme on jette des noyaux de cerises du haut de l'arbre. « Vé, costeux le cadre qui se force pour pleurer. Oh, le gueusard, c'est lui qui tient le fauteuil à présent. Eh, le pauvre Béjuquet, comme il se bouche, comme il a les yeux rouges. Té, l'on a mis un crêpe à la bannière. » Et Bompard qui vient vers la table avec les trois délégués. Ah, il met quelque chose sur le bureau. Il parle à présent, ça doit être bien beau. Les voilà qui tombent tous des larmes. En effet, l'attendrissement devenait général à mesure que Bompard avançait dans son récit fantastique. La mémoire lui était revenue, l'imagination aussi. Après s'être montré, lui et son illustre compagnon, à la cime du Mont-Blanc, sans guide, car tous s'étaient refusés à les suivre, effrayés par le mauvais temps, seuls avec la bannière déployée pendant 5 minutes sur le plus haut pic de l'Europe, il racontait maintenant, et avec quelle émotion, la descente périlleuse et la chute. Tartarin roulant au fond d'une crevasse, et lui, Bompard, s'attachant pour explorer le gouffre dans toute sa longueur d'une corde de 200 pieds. Plus de 20 fois, messieurs, que dis-je, plus de 90 fois, j'ai sondé cet abîme de glace, sans pouvoir arriver jusqu'à notre malheureux président, dont cependant je constatais le passage par ces quelques débris et ces anfractuosités de la glace. Et en parlant, il étalait sur le tapis de la table un fragment de maxillaire, quelques poils de barbe, un morceau de gilet, une boucle de bretelle, on eût dit l'ossuaire des grands mulets. Devant cette exhibition, les douloureux transports de l'assemblée ne se maîtrisaient plus. Même les cœurs les plus durs, les partisans de Costecalde et les personnages les plus graves, comme Balalette, le notaire, le docteur Tournatoire, tombaient effectivement des larmes grosses comme des bouchons de carafe. Les dames invitées poussaient les cris déchirants que dominaient les beuglements, sanglotaient les Scourbagnès, les bêlements de Pascalon, pendant que la marche funèbre de la fanfare accompagnait d'une basse lente et lugubre. Alors, quand il vit l'émotion, l'énervement à son comble, Bompard termina son récit avec un grand geste de pitié vers les débris en bocaux comme des pièces à conviction. Et voilà, messieurs et chers concitoyens, tout ce que j'ai pu retrouver de notre illustre bien-aimé président. Le reste, dans 40 ans, le glacier nous le rendra. Il allait expliquer, pour les personnes ignorantes, la récente découverte faite sur la marche régulière des glaciers. Mais le grincement de la petite porte du fond l'interrompit. quelqu'un entrait. Tartarin, plus pâle qu'une apparition de Home, juste en face de l'orateur. Vé, Tartarin, t'es Gonzague. Et cette race est si singulière, si facile aux histoires invraisemblables, aux mensonges audacieux et vite réfutés, que l'arrivée du grand homme, dont les fragments gisaient encore sur le bureau, ne causa dans la salle qu'un médiocre étonnement. « C'est un malentendu, allons !» dit Tartarin soulagé, rayonnant, la main sur l'épaule de l'homme qu'il croyait d'avoir tué. « J'ai fait le Mont Blanc des deux côtés, monté d'un versant, descendu de l'autre, et c'est ce qui a permis de croire ma disparition. » Il n'avouait pas qu'il avait fait le second versant sur le dos. « Sacré bon pas !» dit Bézuquet. « Oh, il nous a tout de même fait retourner avec son histoire !» Et l'on riait, on se serrait les mains, pendant qu'au dehors, la fanfare, qu'on essayait en vain de faire taire, s'acharnait à la marche funèbre de Tartarin. « Mais, quoi, ce calme, comme il est jaune !» murmurait Pascalon à Bravida, en lui montrant l'armurier qui se levait pour céder le fauteuil à l'ancien président, dont la bonne face rayonnait. Bravida, toujours sentencieux, dit tout bas en regardant Costecalde déchu, rendu à son rang subalterne. « La fortune de l'abbé Mondaire, de curé, il devint vicaire !» Et la séance continua.